Poète, vois papier.
Ah, autant demander à un chien sa carte bancaire. Bonsoir. Cette nuit, Poète vos papiers autant demander à un chien sa carte bancaire est dédiée aux paysages. Ces paysages qui nous entourent, comme la pellicule superficielle de l'en dessous. La poésie témoigne de l'apparence et de ce qu'elle recouvre. Ernest Junger, ce contemplateur solitaire, poète allemand, nous dit « Les formes sont signatures, témoignages, le style est la surface de l'existence. » Quand nous examinons une algue, un papillon, quand nous contemplons une nageoire, une aile, un œil, ce sont là les marques des profondeurs créatrices sur l'épiderme du monde. Il a sous lui des abîmes, et de même que devant eux nous saisissent l'étonnement, l'admiration et la vénération, de même le désespoir rentre en nous devant le toc, la laideur, l'objet de bazar. Quand donc l'esprit se détourne des choses humaines pour s'attacher aux plantes, aux animaux et aux pierres, ce n'est pas par lubie, comme on vous le dit parfois. Ce choix peut être fondé sur le pur instinct de conservation, étant la nostalgie d'une existence plus haute. Quand les puits tarissent, on descend vers la rivière. Là, plus besoin de croire. Le miracle est manifeste. Nous allons donc écouter ces décrypteurs des formes chez qui le repérage véridique s'allie à l'intuition, à une sorte de perception supérieure. Et dans l'alchimie cosmique, privilégie non la solution, mais l'énigme. Sentiment confus, parfois, que nous sommes les descendants des plantes, que nous avons gardé la nostalgie d'une croissance végétale, s'imbibant de vie en sommeil, filtrant une grande sève, accomplie par une immémoriale osmose. Nous venons d'entendre un texte de Christian Hubin, né à Marchin en Belgique en 1941. Richard Blin écrit de lui « Nu face à ce qui est, c'est depuis les bords coupants de ce qui nous échappe, de ce qui erre sans refuge, qu'il écrit. Explorateur du latent, distillateur d'insoupçonnable, géographe de l'imperçu, il guette le moment où l'apparence se retourne. Du plus humblement quotidien, une flaque, une haie, un évier, un hangar, du houx, il fait l'essentiel. Accueillant ce qui n'appuie pas, ce qui à peine transparaît, il s'attache à saisir ce qu'il en est vraiment de la pure, de l'absolue intensité de la manifestation. » Ces poèmes sont toujours très brefs, faits d'une saisie qui atteste, d'une forme minimale de prélèvement. Ce sont quelques mots, comme arrachés à la source d'une tension ou comme désensevelis. Christian Hubin est un médium perméable aux insinuations de l'inconçu, aux aurores latentes, aux harmoniques de l'immémorial. Un poète dont l'exigence est exemplaire. Parmi ses nombreux recueils de poésie, quelques titres des plus récents, tous ces derniers édités chez José Corti. Or, continuum, parlant seul, ce qui est, maintenant, tomber, le sens des perdants, venant. Nous cheminons à ses côtés tout au long de cette émission avec des extraits du recueil « La forêt en fragments » sur une musique du Quatuor Bella et Jean-François Vrod. Par une trouée dans les arbres, la vallée, flottant dans une huile aux reflets bleus, mauve, violet, écorce rose des bouleaux, jaune moite des feuilles, haleine de l'air comme une mousse de veine sous la peau. Le silence respire. Abdelatif Labi est né en 1942 à Fès, au Maroc. Enfin, présumé né en 1942. Une boutade ? Même pas. Une date de naissance au jugé, quand les autorités du protectorat se décident à généraliser l'état civil au Maroc. À l'indépendance, en 1956, il a 14 ans, il écrit déjà. Il publie ses premiers recueils de poésie à 20 ans. Professeur de français, en 63, il participe à la création du théâtre universitaire marocain. En 1966, débute la belle aventure de la revue Souffle, qui jouera un rôle considérable dans le renouvellement culturel au Maghreb. Il rejoint les rangs du Parti pour la Libération et le Socialisme, avatar du Parti communiste marocain, le KIT, et il est en 1970 l'un des fondateurs du mouvement d'extrême gauche, Ilal Hammam, clandestin par la force des choses et du régime de fer. En 1973, il est condamné à 10 ans de prison. Il est libéré en juillet 80, et ce apparemment sous la pression des intellectuels européens et des nombreux prix qui lui sont remis. Il est assigné à résidence. Il se retire en France dans les années 80, tente de retourner au pays, puis revient définitivement en France en 95. Abdelatif Labi s'est fait passeur de mots, s'attelant à la traduction en français de nombre d'auteurs arabes, des poètes pour l'essentiel. D'un livre à l'autre, il développe une œuvre qui touche tous les genres littéraires, romans, théâtre, essais, livres pour enfants, mais dont le fondement essentiel reste l'humain. Nous écoutons Antipoème sur une musique du groupe BH. Je passe en revue ce qui communément se dit. La pierre respire. Le bois travaille. L'arbre se dénude. Le ciel se couvre. Le vent gémit. L'herbe se couche. Le nuage court. La forêt recule. Le volcan se réveille. L'étoile pâlit. La mer rugit. Le soleil se cache. La montagne tue. Le désert avance. Etc. Et voilà que je songe à ces tribus arabes d'avant l'islam qui façonnaient des statuettes de dieux avec des dates, les adoraient pendant que la nourriture était abondante, puis, en temps de pénurie, les mangeaient sans état d'âme. Que faisons-nous d'autre avec la nature ? Cette divinité que nous avons recréée à notre image en pétrissant quotidiennement la pâte de la langue. Aujourd'hui, ne sommes-nous pas en train de la dévorer après l'avoir tant adorée? Pierre Soletti est né en 1971 dans le plein midi de la France et vit actuellement dans la région toulousaine. Nombreuses lectures publiques, notamment au Festival Voix de la Méditerranée en Lodève, Cave Poésie à Toulouse, 14e Festival International de Poésie en Rhône-Alpes, Festival Acte Oral à Marseille. Ses écrits ont donné lieu à la création de spectacles multimédia. Il se produit régulièrement avec son frère, le musicien Patrice Soletti, et avec le duo Facteur Cheval. Quelques titres. Pièces détachées de magie ordinaire. La démarche reggae du dromadaire. Stigmate de l'absence. Ma poésie est toute petite. J'aurais voulu t'écrire un poème. De la balle qui voyage à l'intérieur de la tête. Encore vivant, c'est un CD livre avec Patrice Soletti à la guitare. Dernier télégramme. Nous écoutons des extraits de Building sur une musique de Pierre Bastien. Emballer les pommiers, les citrouilles et les camemberts collants. Remiser les atolls clandestins de pivoine et d'asperges. Replier les corbeaux scannés de la neige, les trains de vie sans conducteur. Plier tout. Les nuages, les abeilles et les bruissements d'ailes. Pliez tout, ne laissez que les phosphènes et l'illusion de la lumière. Fourbir nos beffrois d'usure en traces friables. Évitez les stigmates corrodants, esquivez l'inéluctable pour des vétilles. Frottez le langage contre les murs et gonfler malgré tout sa colonne d'air Ne pas céder, ne pas rompre, juste épingler le ciel de regard près des nuées où les rochers voyagent. Et s'énarbrer de branches, et s'emplumer de bec, et s'effeuiller d'automne, et s'arnacher de peine, et s'envoiler rémige, et jusqu'à fondre ciel, s'énoisiller. Espagne, cathédrale de León, la légèreté sertie de pierre, le bleu des vitraux comme des vocalises de nuit, sillage d'ogives arrachées du sol, trou en l'écume de la lumière. Denis Péan est un poète français, fondateur du groupe angevin Lojo, au sein duquel il est à la fois auteur, compositeur, interprète et pianiste. Citons quelques œuvres, Les passagers ordinaires du temps, Sommeil, sommeil, Musée la parole. Nous écoutons Petit courage, sur une musique de Andy Hemler à l'orgue et Benat Achiari à la voix. C'est une prière que je fais sur un tapis de feuilles. Petit courage, prenez-moi dans vos bras d'argile sèche. Au nom d'adieu, au nom de Salam Alek, de celui qui essaie de voler mais qui n'a pas d'aile. Au nom d'un seul pleureur dans un jardin de roses naines, de l'osier, d'une parcelle de trèfle, sacrée petite vie, je prie des trombes, les ocres éparpillées sur l'échine des monts bruns, des arts d'épines, des rimes en étincelles de forge, nos chemins, nos routes qui se croisent. Petit courage, prenez-moi dans vos bras d'argile sèche. Au nom du cadastre des villes tombales, des hommes sans sandales, de la charia, de la croisade, de toutes les sentinelles postées à l'intérieur de moi, de l'extase sans boussole, d'un puits profond d'exil, des rêves estropiés sentant l'encens d'église, le goulag, la rose irradiée. C'est une prière que je fais sous la tonnelle morte des anciennes destinations. Petit courage, prenez-moi dans vos bras d'argile sèche. Au nom des innocents, de l'époque qui s'agenouille, au nom des fossiles de pluie d'il y a 270 millions d'années, au nom des herbes qui font des crinières au talus le long des nationales, au nom d'une douleur sourde, de mots muets, au nom de la famine qui ne se hâte jamais, au nom de la fente dans une urne pour élire un trou dans une tête morveuse. Denis Eudray écrit de la poésie depuis l'âge de 35 ans. Il est né à Rennes en 63 et demeure très attaché à sa région. Denis Eudray recherche la poésie dans les petits riens de la vie. La plupart de ses poèmes sont diffusés dans son blog. Il a publié également des poèmes dans de nombreuses revues. Quelques mots de Denis Eudray glanés sur la toile. « Je ne suis qu'un petit citoyen du monde qui essaye de vieillir tout en conservant ses rêves, d'avancer avec les autres en gardant une porte dérobée qui donne sur un jardin secret. Je m'intéresse aux mots, alors que d'autres s'en fichent complètement. Comme le cuisinier qui se passionne pour les plats, alors que d'autres mangent goulûment sans prendre le temps d'apprécier. Nous écoutons Zeddy Sud-Est, sur une musique de Thomas Lenn.
Zone, 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 zone,
à risque !
Ordonnons ce nom de ligne et d'angle, jeu de ligne et jeu d'équerre, faux horizons, à ciel tout gris, trottoir en ligne, de fuite. Marcher, 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 ici! Entre deux hangars, je regarde l'arbre à chaque fois. Je suis peut-être le seul à le faire. Trouver de l'intime à ce lieu, m'arrêter un peu. Lieu dit, rien. Juste vivant. On ne demande jamais à un enfant de dessiner un entrepôt. Il n'y a plus qu'à attendre qu'un oiseau vienne à embaucher. Terrain. Terrain. Terrain errant. Errant. Terrain 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 errant. Lumière malhabile. Ville jonchée d'espaces indéchiffrables. Les poubelles n'ont qu'à passer si elles sont si fortes. Allumer tôt à cause de la pluie. Mais quel langage pour marcher ici. La pluie jamais ne se retourne, mais les mots.
Franck Côté est poète. Né en 1966 en Auvergne, Franck Côté vit entre Nantes et Saint-Nazaire, où il poursuit son travail d'écriture. Ses derniers livres parus sont « Trois jours »,« Voix intime »,« La surface des choses »,« La traversée de Prague »,« Le déjeuner sur l'herbe »,« Ce qui flotte encore »,« Sans raison apparente »,« Des visages, des corps ». Ses textes ont paru dans des revues à contre-silence, aujourd'hui poèmes, contre-allées poétiques, décharges, friches, etc. Nous écoutons « Dehors, dedans » sur une musique de Stéphane Oliva. Dehors, comme une peau sur la peau, le soleil, la pluie, posée parfois avec lourdeur jusqu'au ventre. On regarde le jardin, se dit que le temps passe, que les poiriers sont en avance cette année. Que les vacances qui s'approchent sont déjà trop courtes, qu'on aimerait bien partir, un peu, pour souffler. On oublie l'heure. On glisse doucement par la fenêtre. On se dissout. La peau n'est plus une peau, c'est du vent. Du vent qui dérive, s'emporte. Le jour s'avance. Et on n'a encore rien fait, pas grand-chose. Faudrait peut-être s'y mettre. Dans le ciel, circulent des nuages. Ils ont la forme de la pluie, un orage à temps, sentiment aigu. Mes regards ne se vident pas toujours au même endroit, se déplacent de lieu en visage,
en silence. Un silence nouveau à chaque fois. Il s'y arrête un peu, garde une image fugace. Tiens, voilà la pluie. Elle glisse en petits rubans sur les vitres. Derrière, il y a Madame Butterfly, avec sa douleur. Elle est belle avec la pluie, donne de nouvelles couleurs au voyage, fait frissonner la peau qui est du vent. Don't break a butterfly on a wheel. Ça fait revenir les yeux dans l'instant. Tu vas rentrer bientôt, quand déjà ? Bientôt, on posera notre vie dans nos petites histoires du jour. Il y avait du monde sur la route. As-tu pensé à prendre du pain ? Qu'est-ce que les gens peuvent bien faire pour se retrouver ? On se délivrera l'un dans l'autre. L'un et l'autre. On se laissera glisser. Les arbres sont beaux cette année. Pas très haut d'ici. À hauteur de regard, mais je les touche à peine. Ils remplissent l'horizon comme une présence. Voilà tout. La mer doit être belle à cette saison, et si on y allait, quand tu rentreras ? On prendrait la voiture, on partirait, voir sa couleur, son écume. On écouterait debout sur le sable. On mangerait une glace, peut-être. Et puis on rentrerait, les oreilles et les yeux noyés dans ce qu'ils auront tenu. On en prendrait pour des jours. Madame Butterfly a fini sa plainte. Pour bien faire, il faudrait mettre l'autre disque, la suite, pour que tout soit dit. Pas le courage. Autre chose à faire. Regarder le monde, foutre le camp par la fenêtre. On se sent pris, emporté avec. De mes yeux au monde, il n'y a qu'un pas. Il suffit de le faire pour... Je m'étonne d'être encore là, plantée, à travers la fenêtre, dedans. Confusément, le sentiment échappe. À quoi ? On se cogne toujours contre les parois de son corps. Pourtant, il y a cette fragilité légère, où le sang, le cœur ne tiennent qu'à un fil. On le sait, dedans, on sait tout. La vie rendue attachante par tes bonjours du matin, les bols de café fumant, notre façon d'ouvrir les portes, de dire qu'on est là, la radio qu'on allume quand on est seul pour ne pas être seul, les mots qui résonnent si fort parfois qu'on ne laisse pas partir. Cela surtout, ce qui reste par pudeur, timidité, ce qui reste parce qu'ils surgissent du paysage, parce que les dire comme ça serait les faire vieillir trop vite. On pourrait en dire des kilomètres. Rien de plus, pourtant. Presque des sourires, des mains tendues. Ça tient à pas grand-chose, une vie. Pas grand-chose. Dedans, des idées qui s'écartent du dehors. Des idées toutes bêtes, toutes petites. Une mémoire qui les garde, bergère. Parfois, dedans, l'idée trotte. Que les mots ne sont que des apparences, des ombres de ce que nous sommes vraiment. Mon visage revient sur la vitre en surimpression, transparence. J'ouvre pour aérer un peu, ça fait du bien ça, faire entrer l'air. Après, remettre Madame Butterfly, compact disque 1, plage 18, un bel dit, Védrémo, édition des K, direction Tullio Serafin. Pour le plaisir, respirez. Fraîcheur, silence du matin rincé par une lumière de lait. Éblouissement sur les nappes de neige, les nervures bleues, l'écriture oscillante des branches. L'être entier devient pour eux à l'air. À l'haleine du monde. Une sécrétion nous emplit goutte à goutte, nous comble. Fred Griot, né en 1970, publie sous des formes variées une œuvre originale, interactive, faite d'objets littéraires plus proches de la performance que du livre à proprement parler. Son site parle, est ainsi une expérience en ligne mêlant voix, texte et images. Il co-dirige avec François Bon depuis l'an dernier la maison d'édition Publinet, qui édite sous forme numérique un panorama de littérature contemporaine française. Il sonde le son et la scène comme aspect plus physique du texte, en solo et en collaboration avec des musiciens. Il fait des performances à Paris, Prague, Budapest, Lille, Lyon, etc. Nous l'écoutons avec les musiciens Yann Ferry et Eric Groslot.
Il fait gris, d'un grand gris de canard, d'un froid de loup gris. Le ciel est gris, est tout près d'être gris, gris et fermé. L'automne est tout près, l'automne avec le jour qui recule, le jour qui s'en va tôt à l'heure de l'apéro d'été, qui s'en va tôt dans un moins de lumière et de chaleur, qui s'en va tôt dans une ruine d'arbres roux, de mousse, d'écureuils et de nuages froids comme des loups. J'aime ça, cette froideur de loup, cette avancée de la nuit de plus en plus grande dans le jour à pas de loup, ce grand frais qui rampe jour en jour dans le roux, cette face de la terre moins éclairée, cette face de la terre plus centrée dans ce froid de loup, le loup qui chasse le canard, la nuit noire qui chasse le jour de plus en plus court sur cette face de la terre, cette face de la terre de plus en plus dans l'ombre d'elle-même, cette face de la terre de plus en plus dans ce noir de canard à pas de loup, ce froid qui rampe avec la brume à ras sur la terre, ce rat qui rampe à brume froide et cette terre qui rentre dans l'ombre d'elle. Le ciel est gris, le ciel est tout près, le ciel est tout près d'être gris, le ciel est ras la terre, le ciel est fait comme un ras la terre, la terre est faite d'ombre ras la terre, le ciel est fait, la terre est faite, l'ombre repousse la lumière à la terre, le ras d'ombre repousse la lumière, un ras d'ombre à la terre.
Nous retrouvons Henri Michaud, ce grand voyageur, du dehors, du dedans. Quand Henri Michaud accepta de livrer en 1957 quelques renseignements sur 59 années d'existence et donc d'entrer tant soit peu dans le jeu de l'écriture autobiographique, ce fut pour rédiger par bribes une espèce de portrait réduit, en miettes, à la troisième personne. Je cite « Indifférence, inappétence, résistance, inintéressé, il bout de la vie, les jeux, les divertissements et la variation, le manger lui répugne, les odeurs, les contacts, sa moelle ne fait pas de sang, son sang n'est pas fou d'oxygène. » Christian Hubin dit de lui, Michaud, la précision dans le fugitif, l'évasion, l'infinitésimal, comme le fondement d'un ordre de l'incohérence, d'une herméneutique du chaos, le grand erratique intérieur, mais avec plan et relevé. Nous écoutons Iceberg du Quartet à distance avec, pour musiciens, Aurélien Bénard, Denis Fourier, Patrice Soletti.
Récemment boudée. Aux nuits enchanteresses de l'hyperboréa. Iceberg. Cathédrale sans religion de l'hiver, éternelle, enrobée dans la calotte glaciaire de la planète. Du nord Atlantique, auguste Bouddha gelé sur des mers incontemplées, phare scintillant de la mort sans issue, le cri éperdu du silence.
Traversant les guets, les voies, traversant les livres et les paysages, au centre et aux confins de soi, je te reconnais, dit la pierre aimée, dit le visage disparu, morts et mots à perte de mémoire, une roue d'haleine, traversant par chaque rayon, revenant au centre, à la forêt en fragments où l'on errera toujours. Où l'on avance par vœux, à travers le temps, la distance, les strates résonnant sous celui qui passe, comme un gisement. Béatrice Bonhomme Villani est née en 1956 à Alger. Son père, Mario Villani, élève de Jean Grenier, est peintre. Et elle vit ses premières années avec ses quatre frères dans une atmosphère artistique mêlée de musique et de peinture. Sa mère, grande conteuse, lui apprend le goût des mots. Elle rencontre dans cette enfance les paysages méditerranéens, mais aussi la belle campagne du Berry, dont plusieurs de ses textes restent imprégnés. En 1994, elle a créé avec Hervé Bozio la revue Nu, consacrée à des poètes. Béatrice Bonhomme poursuit une réflexion sur la nature diagonale du poétique. À cet effet, elle travaille à et sur la limite entre la poésie et les autres arts, surtout la peinture. Elle a organisé de nombreuses manifestations où la poésie était associée aux autres arts et à la philosophie. Elle lie ainsi analyse critique et scientifique, recherche théorique, sensibilité et création poétique. Elle privilégie l'entre-deux de l'art, la porosité au monde, la notion de mémoire, les problématiques du rythme et de la traduction en poésie. De ses nombreux livres, quelques titres. Mutilation d'arbres, Passant de la lumière, Jeune homme marié, nu, L'âge d'en haut, La grève blanche, Les gestes de la neige. Elle a aussi écrit des textes pour le théâtre, des récits, des journaux, La fin de l'éternité, Dernière adolescence, Marge, et de nombreux livres de critique. Nous écoutons Octobre, sur une musique de Olivier Messiaen et Hans Holliger. Cluis me fait redécouvrir l'automne. Il y a des avancées de feuilles mordorées, dorées, des cosses de châtaignes en forme de petits oursins. L'enveloppe des noix est pourrissante, comme une vieille pelure couleur noire très foncée qui part en filaments et laisse sur les doigts un sillon vert sombre. Une noix très blanche et neuve au goût acre se cache au centre de l'écorce. On a envie de faire couler l'eau fraîche. La vigne vierge est si rouge par endroits qu'on croit un coup de pinceau passé à la va-vite sur les façades. Quelques marronniers éclatent dans les virages annoncés par un brasier jaune. La terre ne porte que des éteules. On sent l'odeur de pierre et de glaise. Dans le village, lorsque le soir est tombé, des chrysanthèmes couleur rouille entourent le magasin de fleurs. Autour de la fontaine, la mousse verdie bouillonne. Les pommes véreuses couvrent les fossés. Les potagers qui ont donné des radis, des navets, des tomates, il y a encore 3 semaines, n'ont pas résisté au gel. Les choux ont poussé en hauteur, ils sont bleu-noir et mangés de chenilles. Une toute petite tomate pourrie orangée témoigne que c'est bien un plant de tomate dans lequel les pas s'enfoncent. La glaise a regagné son terrain apprivoisé le temps d'un été. Nous avons déposé le chrysanthème sur la tombe. Mon père aimait bien cette couleur rouille et il aurait su peindre ces couleurs automnales des sous-bois. Il m'a laissé un paysage qui éclaire d'un trait de lumière les forêts de Cluis. J'ai accroché le tableau sur le mur en face de mon lit. Lorsque je me réveille, je vois la lumière. Sur le sentier, une chenille paraisse sur la route. Elle est faite de velours doré. La pierre du château de Cluis dessous est beaucoup plus visible qu'en été, moins brouillonne, plus nette et claire. Le village sent le feu de bois, le cidre et le jus de pomme, les châtaignes grillées. Des ouvertures de feuilles font deviner des clairières embrasées. Un petit pont de pierre traverse la bousane. Le lavoir désaffecté laisse couler sa source. Certains moutons paraissent presque verts, couleur d'herbe, et des vaches grises, très laineuses, nous observent en soufflant. Les animaux sont laineux dans les champs et se préparent à l'hiver. Le matin, les champs sont déjà blancs couleur de givre et le brouillard reste tard avant que le soleil ne le gomme. Dans les brasiers clairs de l'automne, Cluis me réapprend la terre. Roland Nadeau, né en 1945 à Paris, est l'auteur d'une 60aine d'ouvrages. Poète, romancier, pamphlétaire, conteur et chansonnier, Roland Nadeau a publié sous son nom une 60aine d'ouvrages et quelques autres sous pseudonyme. Il a bâti aussi une ville, Guyancourt, dont il fut élu 31 ans et présidé la ville nouvelle de Saint-Quentin-en-Yvelines où il a créé une maison de la poésie. Une anthologie, à l'idée bleue, lui a été consacrée sous le titre « Vivre quand même parce que c'est comme ça ». Prix international de poésie Antonio Vicaro 2007, Grand Prix de l'Académie des sciences morales, des arts et des lettres de Versailles et d'Île-de-France, pour l'ensemble de son œuvre. Dernière parution, Confession d'un whiskyman français, Les grandes inventions de la préhistoire, Prière d'un recommençant, La pieuvre qui faisait bouger la mer. Nous écoutons une seconde sur une musique de Carl Michael von Osloff.
Une minute de terreur pour une éternité de silence. La terre aurait-elle fait erreur, elle aussi, en frissonnant à Haïti? Frisson d'une seule minute, mais frisson de planète. Et les hommes dormaient comme sur un champ de mine. Pourquoi ce fut désastre d'astre? Une minute à jamais plus longue que ces petites 60 secondes. Car le temps compte, lui, en milliers d'hommes bâtons sur l'ardoise noire d'Haïti. Désormais, à toute horloge, à ma montre poignée, chaque chiffre affiché, égrené, me renvoie à mon pôle de vivant qui bat, qui bat dans le rêve des morts.
Sardaigne. Au bord de la mer d'un bleu acide, les amoncellements de blocs étrangement sculptés, crêtes, stalagmites géantes, dolmens, cloques, lames, vertèbres, tours, pierres, faites torsades, hennissements, l'ensemble comme explosé d'hier, à peine figé, crissant des laves de l'origine. Birago Diop, 1906-1989, est un écrivain sénégalais d'expression française qui rendit hommage à la tradition orale de son pays, le Sénégal, en publiant des contes, notamment ses contes d'Amadou Koumba. Par ceci, d'après les mots de Roland Collin, Birago Diop a ouvert l'une des voies qui mène à l'esprit négro-africain. Il fut associé au mouvement de la négritude dès les années 1930, mouvement qui comptait alors déjà dans ses membres Aimé Césaire ou Léopold Senghor. Or, ses contes, il écrit aussi de la poésie, l'heures et lueurs, du théâtre, l'os de mort-l'âme et des mémoires. La plume raboutée, à rebrousse-temps, à rebrousse-jambe et les yeux pour me dire. Nous écoutons un de ses textes, mis en musique par Sandra Nkake.
Souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson en sanglots. C'est le souffle des ancêtres. Ceux qui sont morts ne sont jamais partis. Ils sont dans le sein de la femme. Ils sont dans l'enfant qui vagit et dans le tison qui s'enflamme. Les morts ne sont pas sous la terre. Ils sont dans le feu qui s'éteint. Ils sont dans les herbes qui pleurent. Ils sont dans les rochers qui indigents. Ils sont dans la forêt, ils sont dans la demeure. Les morts ne sont pas morts. Écoute plus souvent les choses que les êtres. La voix du feu s'entend, entend la voix de l'eau. Écoute dans le vent le buisson sanglot. C'est le souffle des ancêtres.
Gerasim Luka, 1913-1994, est né à Salman Locher, à Bucarest. C'est un poète roumain et un théoricien du surréalisme. Gerasim Luka est né dans un milieu juif askénaze, comme son ami Paul Celan. Il est très jeune en contact avec les langues françaises, germaniques, viennoises et berlinoises, toutes présentes à Bucarest au début des années 30. Ses années de formation, et il lit très tôt de nombreuses œuvres philosophiques. Il prend part à la fondation, puis à l'activité du groupe surréaliste roumain mené par Zara, Fondan, Brancusi, Bronner. En Roumanie, avant la fin de la guerre, il publie son manifeste non-oedipien, perdu à ce jour, qui toutefois irrigue l'œuvre dans son ensemble. Après un rapide passage en Israël, à partir de 1952, il s'installe définitivement à Paris, où il vit pauvrement à Montmartre, rue Joseph de Maistre. Il poursuit des activités artistiques multiples, et en particulier ses réalisations graphiques, parmi lesquelles les cubomanies sont remarquables. Il parle le yiddish, le roumain, le français et l'allemand, et devient un poète francophone surréaliste reconnu, dont les performances ne laissent personne indifférent. À partir de 1973, les philosophes Gilles Deleuze et Félix Guattari lui rendent hommage. Deleuze en parle comme du plus grand poète français vivant. Début 1994, il reçoit un avis d'expulsion de son appartement, officiellement pour des raisons d'hygiène. Le 9 février, il se suicide en sautant dans la Seine. Il avait passé 40 ans en France, sans papier, comme apatride, et vivait avec la peintre Micheline Cathy. Quelques titres. Un loup à travers une loupe, quantitativement aimé, le vampire passif, héros limite, la lettre, le sorcier noir, sept slogans ontophoniques, poésie élémentaire, apostrophe apocalypse, théâtre de bouche, et tant d'autres. Nous écoutons Soupir à trappe sur une musique de Pascal Conté. La main invisible repose sur un lion invisible. Le lion flotte dans une chambre invisible, parfaitement, subitement invisible. L'air de cette chambre est un couteau invisible, insensiblement respiré par le lion, essentiellement invisible. Pour le couteau invisible, la main n'est qu'un face-à-main, à peine visible. Mais c'est lui, le couteau, qui est naïvement, doucement, nettement invisible. Car le face-à-main n'est que la surface de la main, la surface miroitante et sensible de l'eau d'un lac, de l'au-delà d'un lac somnolent. Et absent, et facile, et passivement invisible, la main invisible prend le couteau, passivement substantiel, et l'enfonce, profondément, dans l'eau. Follement invisible, particulièrement invisible, silencieusement invisible, de ta peau, simultanément nuage,
sable, visible, méconnaissable, indivisible, invisible, sable, nuage, sable, nuage, sable, sable, méconnaissable.
Au-delà de la Malbaie, au Québec, le Saint-Laurent, comme une calme orgie. D'un petit cimetière bordé de bancs publics, on peut voir, assis auprès des morts, la lente fusion qui déborde les mots, l'incandescence paisible brûlant les bords du regard, jusqu'à dissoudre l'œil, les perspectives, une lumière plate qui ne veut que réunir, un gigantesque coup de gomme qui s'appose. Sanford Fraser est né à Boston en 1932 et il a commencé à écrire des poèmes à l'âge de 50 ans à New York où il vit actuellement. Il a passé un été à Paris à l'époque où il faisait des études de peinture. Par la suite, il a travaillé dans les services sociaux de la ville de New York. Il est titulaire d'une licence en littérature de l'université Wesleyan et d'un doctorat en éducation artistique de l'université de New York. Titre « Touriste, parmi les étrangers que j'ai connus toute ma vie », La 14e rue. De nombreux magazines ont publié ses poèmes aux États-Unis et en France. Nous écoutons Au-delà des brisants, sur une musique de Sébastien Roux. Peu de nouvelles, seulement 3 morts, 5 blessés. Encore un jour chaud. Le gazon se meurt. Tout le monde à la plage. J'entre dans l'eau froide. Des bulles explosent autour de mes chevilles. Au-delà des brisants, un ballon de foot vogue vers le large. Tout près, un jeune enfant sanglote. Un homme, sans doute son père, jure. À marée basse, les mouettes, comme pilots, plongent pour donner la mort. Michel Dujardin est né à Marseille en 1955. Premier livre en 1983, Blocos. En 88, elle publie Abaddon et de nombreux textes en revue. Après ce premier livre publié tôt, elle s'engage dans une longue réflexion poétique dont Abaddon serait la première porte. Nous écoutons un de ses textes sur une musique de François Houle, Joël Léandre, Raymond Stride. Papillon tête de mort. La mer a collé Islande à la texture de la cendre. Celle qui reste sur les doigts longtemps après la chute. Icare, rêvant en cyrillique dans les mâchoires de la grand roue. Huître, coquille brisée dans les sables de plastique et le roulis décomposé du polystyrène. Les perles, alors, luise dans l'œil bombé des enjoliveurs. Promenade des grues et des excavatrices. Morts flottant dans leur costume de poussière. Feu, ailleurs, crient les tours de leur voix cellulaire. Ici, toujours, crie l'oiseau de misère. Serre plantée au centre du monde, dans le flambeau d'épines vertes. Four et drude d'antan brûlant ses navires, vent debout, coque de verre et mirage plasma sur la mer, électrique, les figures de proue famélique attaquent le ciel qui monte, ébloui, toujours plus haut.
même au bout du monde, nous sommes désormais chez nous. Et c'est bien notre perte. Nous sommes beaucoup trop chez nous. Vénus Kourigata, née en 1937 à Baabda, près de Beyrouth, dans une famille catholique. Son père est un ancien moine devenu militaire. C'est lui qui transmet la langue française à ses enfants. Sa mère est d'origine modeste, paysanne, native de Bacheret, ville natale du grand poète et peintre Khalil Gibran. Vénus vivait avec sa famille à Beyrouth qu'elle n'aimait guère, ce pourquoi le Liban qu'elle décrira plus tard dans son œuvre est celui de Bacheret, de la vallée de Kadisha, et non pas celui de la capitale. Vénus s'installe à Paris à 35 ans, poète, romancière, critique littéraire, Vénus Kourigata est l'un des plus grands noms de la littérature francophone contemporaine. Elle fait partie de plus d'une dizaine de jurys littéraires et son œuvre est traduite dans de nombreuses langues. Elle a publié une vingtaine de romans et autant de recueils poétiques. Elle a bâti au fil des ans une œuvre riche, alternant poésie et roman, qui a été couronnée de nombreux prix, le prix Apollinaire, le prix Mallarmé, le prix Jules Supervielle, le prix Baie des Anges, le grand prix de poésie de l'Académie française. Dernier titre paru, La Revenante, À quoi sert la neige, Les Obscurcies, Sept pierres pour la femme adultère. Nous écoutons, nous étions sept, sur une musique de Andy Emler à l'orgue et Benata Chiari à la voix. Nous étions sept, partant de véhémence et de promiscuité. Cinq enfants et deux platanes aux bras raccourcis. La première neige tombait du front de la mer, mouillait son corsage, plein à craquer de noix creuses et de nos cris. La mer portait son chagrin sur sa paume et soufflait dessus. Elle profitait de notre sommeil pour déplacer la montagne face à la fenêtre, nous offrait un peu de planète et de dépaysement. Déplacer la montagne, mais pas le vent. La mer ne connaissait pas le nom du vent, ni sa consistance. Ses mains, vouées à la fourche, à la pelle, creusant sans cesse le même sillon de sa gorge à la clôture du champ. Ses mains ne lui appartenaient pas lorsqu'elle traînait la tempête par le licou, l'attachait à l'ombre du cheval, debout sur son hennissement. Voilà, vous pourrez retrouver les noms des poètes, poétesses ainsi que ceux des musiciens sur le site de CFM. C'était Annie Mendieta qui vous donne rendez-vous pour la prochaine pleine lune.
Poète, vos papiers.
Poète, ah, autant demander à un chien sa carte bancaire.